Bonjour les amis, juste un petit mot pour vous signifier que cet épisode a été enregistré il y a quelques mois avant notre pause et nous revenons avec une nouvelle formule. Donc l'épisode a été monté un peu différemment par rapport à d'habitude et on s'excuse auprès de Camille dont la plume à papote a été supprimée et la volière aussi a été quelque peu coupée. On vous expliquera plus précisément sur nos réseaux le remaniement de la formule.
Ouais, la plume à papote, c'est un peu l'introduction. La volière, on l'a réduit pour passer plus de temps sur le chapitre, mais il y aura toujours autant de discussions. Et aussi, le changement, c'est qu'on a ouvert un Patreon avec la sortie des épisodes une semaine avant et aussi des after-shows, c'est-à-dire des petits contenus bonus exclusifs à Patreon. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à jeter un œil sur nos réseaux sociaux pour être tenu au courant de tout ça.
Alors, vous écoutez ce message, l'épisode que vous allez écouter est diffusé, mais également l'épisode que nous avons enregistré il y a quelques jours avec notre invité, dont on taira le nom pour l'instant pour laisser la surprise, est également disponible sur le Patreon avec un after show disponible pour tous les patrons.
Voilà, bah on vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute.
Bye bye.
Vous êtes branchés sur la fréquence 9¾.
Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9¾. Je suis Jérémy.
Et je suis Marina.
Au dernier épisode, on a laissé notre joyeuse troupe au moment où ils prenaient un porte-loin pour rejoindre la Coupe du Monde de Quidditch. On les retrouve donc avec grand plaisir sur place pour les accompagner dans l'installation de leur camping.
Au programme de ce chapitre, il va y avoir du montage de tente, un petit déjeuner en extérieur avec le réchaud, la queue au robinet pour avoir de l'eau, bref, le camping version sorcier, ou plutôt version sorcier, qui tente de se faire passer pour des moldus.
On va y faire aussi la rencontre de Ludo Verté et de Barty Croupton, des personnages clés du quatrième tome, ainsi que tout un tas de sorciers venus du monde entier, parce que dans ce chapitre, on découvre bien sûr que la culture sorcière ne se limite pas à l'école de Poudlard en Écosse, mais que la magie est bel et bien présente dans le monde entier.
Avant de se plonger dans ce chapitre, on est ravis de recevoir notre auditeur Camille. Salut Camille, comment tu vas ?
Mais très bien, et vous, comment est-ce que vous allez ?
Bah oui, ça va très bien.
Très bien.
Bah si tout le monde est prêt, moi je vous propose qu'on pose tous le doigt sur la vieille botte porte au loin et direction le terrain de la Coupe du Monde de Quidditch. C'est parti.
Harry Potter et la Coupe de Feu.
Chapitre 7. Verpé et Croupton.
Alors on retrouve notre joyeuse troupe de la Coupe du Monde de Quidditch qui vient d'atterrir sur le lieu grâce aux portes au loin. Harry et Ron finissent par se relever et ils remarquent qu'ils sont désormais dans un terrain vide et embrumé. Deux sorciers à l'air grincheux sont là pour les accueillir. Comme Arthur, ils sont habillés de façon étrange avec un mélange de tweed, de cuissard, de kilt et de poncho, rien que ça. Encore une fois, mettez juste un t-shirt et un jean et ça fera l'affaire, les gars. Mais bon. L'un
après,
des deux.
Après, si je peux me permettre, j'en ai pensé.
Mais permets-toi.
C'est qu'ils sont habitués d'être. Est-ce qu'ils ont des pantalons en dessous leur robe de sorcier ?
Bah.
Parce qu'ils ont l'habitude.
Oui, quand même.
Parce qu'ils ont l'habitude d'être à l'aise. Et là, un jean, putain, je suis désolée, mais on n'est pas du tout à l'aise dans un jean. Ça serre et tout, quand tu connais pas le principe, c'est chiant. Alors que t'as l'habitude, toi, de traîner en robe et tout.
Moi, je pense.
Moi, je comprends qu'ils s'orientent plutôt vers le kilt, quoi.
Il y a peut-être deux écoles, parce que je pense quand même que la plupart des sorciers, ils mettent des pantalons. Enfin, par exemple, on voit bien dans l'uniforme, ils ont des pantalons. Et sinon, c'est un peu bizarre, genre, de... Je sais pas.
Est-ce que dans les livres, ils ont des pantalons dans leur uniforme ?
Mais ouais. Je suis pas certain. Hein.
Ah ouais, quand même.
Est-ce qu'ils ont pas des robes de sorcier ?
Ils ont des robes de sorcier tout du long, donc je sais pas s'ils portent un pantalon.
Ouais, c'est Poudlard en Écosse, il fait moins 5 degrés dans le château.
Mais mettre des collants. Des collants en laine.
J'en sais rien. En vrai.
Moi, je pense que si. Moi, je pense que si, dans son imaginaire, ils ont des pantalons.
Ouais, mais c'est pas des jeans. Je pense que c'est des trucs quand même plus confortables.
Oui, c'est ça. Mmh. Oui, c'est ça, je pense. Mais après, par contre, on va le voir un petit peu plus tard avec une petite scène drôle qui se passe. C'est que, effectivement, il y a peut-être des vieux. Mais moi, pour moi, ça, dans mon imaginaire, ce serait plus des vieux sorciers qui portent que des robes. Mais je sais pas. Enfin bref, n'empêche que les sorciers, ils cherchent toujours un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de mettre un jean, ils vont chercher des pantalons de golf, bon, ici, des kilts, des ponchos, bon. c'est l'excentricité des sorciers, on va dire. L'un des deux personnages s'appelle Basil, au vu du salut que lui envoie Monsieur Weasley. Voir Arthur qui ne travaille pas le rend encore plus maussade, Basil expliquant qu'ils sont sur ce terrain depuis le début de la nuit. Puis, il lui indique que leur campement se trouve un peu plus loin sur le camping de Monsieur Roberts. Après une nouvelle marche, les Weasley et les Diggory se séparent, chacun rejoignant son campement. Monsieur Roberts, un vrai moldu cette fois, accueille le groupe des Weasley en leur indiquant leur emplacement au loin. Le lieu est déjà occupé par des centaines de tentes. Alors, je me suis fait une petite réflexion à ce moment-là. Arthur, il a réservé pour une nuit, c'est ce que dit Monsieur Roberts. Mais on sait aussi que la durée des matchs de Quidditch, c'est incertain. Donc, comment ça serait passé si le match avait duré plusieurs jours, comme a priori ça a été le cas
Les allonges avant. Par magie, la durée de la réservation dans la tête du module.
Je pense qu'il fait un truc comme ça. Mais un truc que je comprends pas non plus, c'est pourquoi est-ce qu'ils s'embêtent à avoir un moldu dans les pattes qui, enfin là on va le voir, il se prend des oubliettes dans la tête toutes les 5 minutes, alors qu'il pourrait très bien, je sais pas, justement l'ensorceler pour qu'il parte en vacances une semaine ou deux, et comme ça ils peuvent gérer eux-mêmes le camping, quoi. Je sais pas, c'est un peu bizarre de. En plus c'est pas très éthique parce que lancer les oubliettes sur un moldu, voilà quoi.
Mais ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve ça bizarre d'inclure forcément la complicité inconsciente de Moldu. Je pense qu'ils auraient pu quand même, faire des sortilèges repousse Moldu sur un territoire beaucoup plus grand que celui-là, que celui du terrain de Quidditch, parce qu'on apprendra plus tard que, pour le coup, le terrain de Quidditch, c'est comme Poudlard, c'est-à-dire qu'un Moldu peut pas voir le terrain de Quidditch. Pourquoi ne pas l'avoir fait et pas avoir étendu ça au campement, en fait? Pourquoi forcément squatter les campings de Moldu, quoi? C'est prendre des risques pour rien, je trouve. C'est un peu bizarre, ouais. Je suis d'accord avec toi.
Ouais, c'est ça, c'est prendre des risques pour rien, alors qu'un sortilège anti-Moldu...
Puis embêter des Moldus, c'est les embêter. Parce qu'il y a Monsieur Robert, là. Mais moi, je me suis dit, mais ça se trouve, il y a des Moldus genre normaux qui ont eu le malheur de réserver au même moment, ils pensaient être tranquillou, et ils se retrouvent parmi des centaines de gens trop bizarres, qui s'habillent n'importe comment, qui font la fête, qui ont l'air de tous se connaître, et ils sont et les pauvres, quoi.
Mais tu penses qu'il y a des moldus parmi...
Je sais pas, hein.
Ouais, je pense pas.
On verra que les mange-morts s'attaqueront qu'à la famille de Monsieur Roberts, mais est-ce qu'il y a d'autres moldus?
Je pense pas.
Ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il y a un mold, enfin Monsieur Roberts, du coup. S'il y a déjà des, mais c'est un peu bizarre.
Après, comment les sorciers auraient pu faire éviter qu'un moldu réserve au même moment. C'est bizarre.
Pas du tout. Mais après, c'est peut-être la facilité parce que le gérant du camping, il connaît les emplacements, il sait comment guider les gens et tout.
Ah, c'est de la flemme sorcière, tu veux dire?
Un pratique pour l'organisation.
Ouais, ouais, ça peut coller, quoi.
Ouais, c'est pas trop explicable.
Non. Arthur se fait aider par Harry pour payer en argent moldu. Monsieur Robert fait la remarque que c'est pas la première fois aujourd'hui que des clients ont du mal avec l'argent. Certains visiteurs ont même essayé de payer avec des pièces d'or aussi grosses que des enjoliveurs. Puis c'est quand même bizarre qu'il y ait autant de réservations par des étrangers, surtout que certains ont l'air, je cite, de drôles de zigotos. À leur façon de s'habiller. Et le plus étrange, c'est qu'ils semblent tous se connaître. Alors, ça va pas faire bizarre. Là, je pense qu'on a déjà abordé ce sujet, mais j'aime bien en parler. Je me demande, ça va pas faire bizarre aux sorciers de payer avec de l'argent moldu qui montre la tête de la reine d'Angleterre? Et là, je me pose toujours, mais est-ce qu'ils ont un lien quelconque avec la famille royale? Parce qu'on mentionne la politique, on mentionne le premier ministre dans Harry Potter, mais par exemple sur les billets, ça doit pas échapper à Monsieur Weasley qui a la reine Elisabeth sur les billets avec lesquels il paye.
Mais pour lui, pour eux, ça se trouve, la monarchie, ça veut rien dire.
Ouais,
c'est une invention moldue, et pas plus que ça.
Je pense qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité et qu'ils savent pas s'en servir. Je pense qu'ils s'en foutent, quoi. Je pense qu'ils se posent pas de questions, hein. Vraiment, dans l'ensemble, ils sont quand même un peu dans leur monde. Et puis voilà, quoi. Le reste, ils s'en fichent, quoi.
Mais on sait de quoi sont frappées les pièces ?
Les pièces, je ne saurais pas te dire. Mais s'il a des billets, il y a forcément de Queen Elizabeth dessus.
Non, je veux dire chez les sorciers.
Ah, chez les sorciers.
Les Morny, les Galions, est-ce qu'elles sont frappées ?
Ça, je ne sais pas. Enfin, dans le livre, je ne sais pas si c'est indiqué en tout cas. Mais tu vois, parce que je me dis, tu vois, par rapport à la curiosité d'Arthur, en fait, je me demande si J.K. Rowling évite pas le sujet. Parce que je trouve ça bizarre, si jamais Arthur il a un billet, je trouve ça bizarre qu'il n'y a pas un moment où il se demande « C'est qui, cette dame ?»
Il y en a qui le savent forcément s'ils ont étudié les moldus comme Arthur à Poudlard.
Ouais, mais après, il collectionne les prises électriques, quoi. Donc, sa culture moldue...
justement, il sait à quoi ça sert, mais l'électricité, pour lui, c'est assez fou, quand même.
Ouais.
Oui, mais il comprend pas vraiment ce que c'est. Enfin, j'ai l'impression qu'il est... il est... un peu fasciné par les moldus, mais j'ai pas l'impression
qu'il comprend pas.
Sinon, il saurait se servir de la monnaie. Enfin,
je veux dire
que se servir de la monnaie, c'est difficile. Surtout, c'est juste compter en base 10, c'est eux qui savent. Enfin,
ouais, voilà. Ouais. Non, mais voilà, je me demande ça parce qu'on aborde, on verra même le premier ministre moldu. Donc, elle met en scène le premier ministre, mais jamais pendant la saga, on va faire mention de la famille royale. Alors que même si elle a un simple rôle diplomatique, ça reste une entité hyper importante dans la culture britannique. Et là, notamment, je me pose la question parce que il est fort possible que, bah voilà, que sur, si Arthur il a des billets à ce moment-là, bah, il y a la Queen Elizabeth et genre, ça a l'air de signifier rien en fait, de rien signifier pour les sorciers. Et je me demande, genre, je me pose juste la question, est-ce qu'elle évite le sujet ? Parce qu'elle veut éviter le sujet. Ou alors, est-ce que c'est comme vous dites, et finalement, les sorciers, ils ont tellement une culture différente que la famille royale, ça n'évoque absolument rien pour les sorciers.
Après, est-ce qu'elle veut éviter ou est-ce que simplement, elle n'a pas été autant cherchée dans le détail ?
Je pense qu'elle n'y a pas pensé non plus. Du coup...
Ah, mais vraiment, elle-même est britannique et genre la famille royale, c'est fou, c'est un truc incontournable, tu vois, dans ta culture britannique. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est encore. Tu vois, même nous, on la connaît, la famille royale, même nous, on en parle, mais les Anglais, enfin, les Britanniques, de façon générale, c'est encore plus hype que ça, tu vois.
Elle avait peut-être pas envie de lier la famille royale avec.
Peut-être. Moi, je pense qu'elle évite. Hein. Moi, je pense qu'elle évite le sujet.
Les sorciers, tout ça, enfin, la sorcellerie, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est un. Enfin, après, ça n'a pas été écrit 1800, hein, Harry Potter, mais peut-être que c'était un peu. Ça reste quand même un peu tabou et que du coup. Elle préférait juste ignorer le sujet, quoi. Enfin...
Par contre, en vrai, il y a un vrai lien, mais ça, c'est plus les films, il y a un vrai lien entre Harry Potter et la monarchie, et notamment la reine Elisabeth. C'est que, alors, je sais plus dans quel contexte, je crois que c'était pour les JO qui avaient eu lieu à Londres, il y avait eu un clip qui avait été fait où on voit Harry, Ron et Hermione, donc Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, et qui reçoivent un hibou de la part de la reine Elisabeth. Donc, on voit vraiment, je crois qu'on voit vraiment la reine d'Angleterre, il me semble. Ou alors on la voit pas, mais on l'évoque. Et en fait, c'est genre, elle a perdu son sac à main ou un truc comme ça. Et en fait, ils doivent le retrouver. Je sais pas si vous connaissez ce clip, mais il est sur YouTube. Je vous invite à vous taper Harry Potter, Queen Elizabeth. Et vous allez tomber sur ce clip. C'est assez surréaliste.
Non, ça me dit rien.
Tu iras voir et tu nous diras. C'est assez marrant. À ce moment-là, un sorcier en pantalon de golf lance un sortilège d'oubliettes au moldu. Monsieur Roberts a alors le regard dans le vide et il rend la monnaie à Monsieur Weasley ainsi qu'un plan du camping sans autre commentaire. L'inconnu accompagne le groupe des Weasley jusqu'à l'entrée, l'air fatigué. Il explique discrètement à Arthur qu'ils sont obligés de l'oublietter 10 fois par jour maintenant pour le calmer, d'autant que Ludo Verpé ne fait rien pour arranger les choses en parlant de Quidditch à droite à gauche. Puis, sur ce, l'employé du ministère part en transplanant. Je me suis dit... D'accord, mais transplaner, c'est pas forcément mieux. Je sais pas si Monsieur Robert, s'il regarde, mais voir quelqu'un disparaître, je sais pas si c'est mieux. Et d'ailleurs, la partie Croupton, il va faire la même chose tout à l'heure. Bon, ça me paraît un peu curieux. Bref.
Déjà, c'est très cruel d'en lancer autant de sorts sur un moldu. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est censé être interdit sous prétexte du sport. Voilà, on s'en fout. On maltraite un moldu. Et puis, je me dis que, à part le Premier ministre, il doit y avoir quand même quelques moldus qui sont au courant. Enfin, est-ce qu'il pourrait pas, faire en sorte qu'il y ait quelques moldus qui soient complices et qui gèrent justement ce genre d'événements, ne serait-ce que les crack-molds. Les crack-molds, finalement, c'est des moldus.
Ouais, mais comme on disait, je pense que c'est la facilité. Ouais, comme disait Marina, je crois que c'est toi qui disais ça, Marina. C'est peut-être la facilité. Il y a un campement, il est assez grand. Bon, c'est un Moldu qui le gère. On connaît pas trop, on sait pas comment organiser les réservations et tout. Donc, du coup, on va l'utiliser. Et puis, si les choses dégénèrent, c'est pas grave, on l'oubliette, quoi. Parce que les sorciers, ils font souvent ça. Mais j'avoue que ça pose un problème éthique, surtout que quand tu te fais oublier plein de fois, je pense que c'est pas bon pour ton intégrité psychologique, quoi.
Bah, je pense que ça dépend comment tu lances le sort, si tu le lances bien ou pas.
Ouais.
Je pense qu'il doit. Hein. Je pense que c'est.
Ça va faire du bien à la tête, quoi.
Mais oui, je pense que ça doit être assez violent.
Ouais. Ginny est surprise d'entendre ces mots à propos de Ludur VRP parce qu'elle croyait qu'il était le directeur du département des jeux et sports magiques. Son père lui confirme que c'est vrai, mais il lui répond que bon, voilà, c'est Ludo, la discrétion et la sécurité, c'est pas trop son truc, quoi. Mais à part ça, il est passionné par son travail et il a d'ailleurs lui-même été un batteur professionnel célèbre dans le passé. Là, je me suis dit, Ludo VRP, c'est un peu le David Douillet, quoi. Sorcier. Oui. c'est la même chose. C'est David Douillet. En chemin vers leur... J'ai fait un bide là-dessus. Incroyable. Monumental.
Non, mais peut-être pour la référence des plus jeunes, David Douillet, c'est un ancien judoka. Je crois récompensé champion du monde.
Oh, ouais, sacré, ouais.
Champion du monde qui est devenu ministre des sports sous
Sarkozy.
Sarkozy.
Ouais.
Voilà. C'est pas parce que t'es un ancien sportif que tu es forcément bon ministre, quoi.
C'est comme si Teddy Riner aujourd'hui devenait ministre, voilà.
C'est comme si Donald Trump devenait président. Ah, pardon.
Attends, lui, c'était même pas le sport, lui, c'était la télé-réalité. Hein. My God. You're fired!
Ouais, c'est ça.
En chemin vers leur tente, la troupe passe devant de nombreuses tentes. La plupart sont similaires à celles des Moldus, bien qu'il y ait, par exemple, des cheminées sur certaines d'entre elles. D'autres occupants, néanmoins, n'ont fait aucun effort pour cacher leur statut de sorcier avec des tentes à plusieurs étages ou comprenant un jardin complet avec fontaine.
Un appartement, quoi.
Ouais.
Une maison.
C'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'il y ait des Moldus dans le camping, parce que en vrai, les gens, ils font aucun effort, quoi.
Bah, en tout cas, s'il y en a, j'espère que le ministère est au courant et qu'il les oubliette aussi. Mais moi, j'aime bien penser qu'il y a certains Moldus qui ont fait des réservations en mode normal et c'est les oubliés de l'organisation de la Coupe du Monde. Et du coup, ils ont passé leur temps à regarder autour d'eux et en mode « What the f***? Qu'est-ce qui se passe ?»
J'avoue.
Je vais peut-être biper le what the parce que je sais pas, Spotify, je crois qu'ils commencent à être un peu relou, même en anglais. Monsieur Weasley fait un petit commentaire. C'est toujours pareil, lorsqu'on se rassemble, il faut toujours chercher à épater son voisin. Moi, ça me fait penser à la plage, ça. Tu sais, les installations à la plage, il y en a, tu vois, c'est.
Oui.
Genre toi, c'est vachement basique, t'as juste ton drap de bain et voilà. Et à côté de toi, il y a quelqu'un qui s'installe et c'est genre installation de compète.
Ouais, mais est-ce que tu les envies pas, ceux qui ont
oui,
les petits sièges confortables avec les parasols, la glacière remplie à fond, alors que toi, t'as même pas de glacière, t'as pris ta bouteille d'eau qui est chaude au bout de 10 minutes et ton parasol, c'est de la... Et donc du coup, il s'écroule sur toi et tu brûles au soleil. Enfin, et t'es obligé de mettre ton maillot sur ta tête. Et donc du coup, ta tête, elle est toute blanche parce que tu bronzes pas. Je les envie ces gens-là.
Ouais, c'est la famille parfaite qui arrive. Et c'est genre confort.
Les enfants,
plus.
Ils ont les tentes, les bouées géantes. Et puis ils ont un resto dans la glacière. Ils ont un resto, les gens. Ils ont même l'apéro et tout, à partir de 17h. C'est incroyable.
Limite, ils installent leur propre toilette et tout.
Ah ouais.
Juste de la frime.
Ouais. Le groupe parvient enfin à l'emplacement qu'il aurait réservé et sur lequel se trouve un écriteau qui affiche « Weasley ». Ça ressemble à « Weedy ». « Weasley ». Et puis, y a un truc qui m'énerve aussi, c'est les fautes sur les prénoms et les noms de famille. Faites un effort. Et surtout que nous, on a un nom de famille un peu compliqué et c'est un peu notre quotidien. Les fautes sur notre nom de famille.
Après, moi, j'ai cherché. Hein, j'ai pris ton nom. Donc, du coup, je savais ce qui m'attendait.
Ouais, ça, tu vois, genre, je suis un Weasley, ça m'énerve. Genre, Weasley, tu pourrais faire un effort, quoi.
Non, en fait, parfois, les gens, quand t'as un nom compliqué, en fait, c'est à la limite de l'irrespect.
Pour moi, je le prends comme de l'irrespect.
En fait, moi, ça me dérange pas d'appeler mon nom et de répéter plusieurs fois notre nom, ça me dérange pas. Mais quand les gens te disent ouais, ok, bon, ouais, c'est compliqué ça. Ah, si j'écris ça, bah non, parce que c'est pas mon nom.
Mais le pire, c'est qu'on t'a fait épeler et tout, on t'a fait répéter, et au final, tu reçois genre le papier et en fait, c'est mal écrit, tu vois. C'est pas si compliqué que ça, quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de la vie moldue. Arthur est ravi de leur emplacement car le terrain de Quidditch se trouve non loin derrière, de l'autre côté du bois. Pour sa part, il tient bien évidemment à respecter au maximum les règles moldues sans avoir recours à la magie. Mais malgré son enthousiasme, il n'est pas du tout prêt et il demande à Harry et à Hermione de l'aider à monter la tente. Et là, je me suis dit, la magie, ça te rend un peu gauche quand même, voire complètement gauche quand on y pense. Parce que
les sorciers
sont tellement habitués à avoir la magie. Je veux dire, Arthur Weasley, père de famille et tout, il sait même pas monter une tente, le gars.
Je suis désolée, t'as déjà monté une tente?
Bah oui.
C'est compliqué, je suis désolée, si t'as pas la quechua qui se...
Ouais, une tente 2 secondes, quoi.
Ouais, mais si t'as pas... Attends, t'as déjà monté une tente avec...
Ouais, en vrai, oui. En vrai, oui.
Et tu trouves que c'est facile?
Non, c'est pas facile, mais je me débrouille. Tu vois, alors qu'Arthur, il sait même pas le faire. Genre, ça, il va être dit tout à l'heure que il embête même Harry Hermione parce qu'il veut donner des coups de marteau partout et tu vois.
Mais est-ce que si t'avais la magie, est-ce que si tu pouvais faire ça avec la magie, est-ce que vraiment tu serais embêté à apprendre à monter?
Ben, c'est ça.
Mais bien sûr que non, comme c'est les meubles qu'il y a, t'aurais la magie, tu t'embêterais pas à aller monter pendant des heures.
Mais même nous, à notre échelle moldue, avec la technologie, avec la modernité, en fait, on est devenu feignant. Il y a des trucs qu'on savait faire avant, qu'on sait plus faire maintenant. Mais la magie, pour moi, le monde des sorciers, c'est ça plus. Parce que eux, ils ont la magie depuis toujours. Et en fait, il y a des trucs genre, ils sont pas du tout manuels, en fait.
Ouais, donc voilà, finalement, tu leur reproches, mais t'as trouvé l'explication aussi. Imagine, alors je suis désolée pour les plus jeunes, mais imagine les jeunes là qui naissent aujourd'hui avec toute la technologie, toutes les facilités dont ils ont aujourd'hui.
Je fais un petit instant boomer là.
Non, mais ils ne sauront pas faire des choses que nous, on a fait durant notre enfance et que du coup, c'est inné, mais c'est normal. Parce qu'on leur a jamais appris, ça a jamais été dans leurs habitudes. Donc pourquoi ils iraient se compliquer la vie? Et ils ont raison.
Oui, c'est vrai. Mais après, je trouve que le monde des sorciers, ça vient, c'est quand même pire que le monde des moldus. Parce que c'est des trucs de la vie courante.
Ils ont plus de facilité.
Ouais, c'est ça.
Oui, mais de ta vie courante, de vision, de moldus.
Là, j'ai tendance, par exemple, on va prendre un exemple tout bête, Madame Weasley. Madame Weasley, c'est le cliché de la femme au foyer qui prépare à manger, qui fait la cuisine, qui fait le ménage. Est-ce que Madame Weasley sait cuisiner sans la magie? Moi, je pense que non. Alors que dans la vie moldue, par exemple, tu as un Thermomix, partenariat Thermomix, petit virement bancaire. Tu utilises un Thermomix, je suis sûr que même si tu utilises un Thermomix, tu sais cuisiner sans ton Thermomix. Tu vois ce que je veux dire?
Pas forcément.
Non, pas forcément, c'est vraiment bizarre.
C'est faux. Tu connais notre compétence en cuisine. Je suis sûre qu'avec un Thermomix, on ferait des plats de fou.
Ouais.
Moi, déjà, j'arrive à faire une sauce curry. Je suis.
Tu te débrouilles quand même tout seul, tu vois. C'est comme apprendre c'est comme compter, etc. On a d'abord appris à compter sans une calculatrice. Maintenant, on le fait avec une calculatrice. Alors, c'est plus difficile maintenant quand on a eu l'habitude de le faire, de toujours utiliser la calculatrice, de compter de tête. Mais on sait quand même le faire un minimum, quoi. Alors que les sorciers, finalement, ils ont jamais appris à se débrouiller sans la magie.
Ouais, moi, je suis un peu d'accord avec Camille. Moi, je pense que, tu vois, par exemple, t'as un moldu, et finalement, moi, je suis moldu, tu vois. Et puis, on met une baguette magique dans la main, on dit, en fait, t'es un sorcier, tu peux utiliser la magie. Et je saurais m'adapter de fou au monde de la magie, parce que je serais en mode, mais c'est dingue tout ce qu'on peut faire, en fait, je m'embête de fou, la magie, c'est trop utile. Alors que tu fais l'inverse, un sorcier qui a été sorcier toute sa vie, et d'un seul coup, tu lui dis, t'as plus de pouvoir magique, t'as un moldu, laisse tomber, il est incapable de vivre en société, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Normal, c'est des nouvelles habitudes à prendre.
Mais tu vois, je trouve que ça a sens unique, en fait. En fait, les sorciers, pour moi, ils sont plus gauches que les moldus, en fait. Ils sont plus inadaptés que les moldus.
Après, même au niveau de la magie, je pense que tu es plus ou moins gauche. Je pense que faire à manger avec la magie, ça s'apprend aussi.
Oui, ça s'apprend aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous voyez ce que je veux dire.
Non, je suis pas d'accord avec toi.
Mais si t'es d'accord avec
moi.
Une fois la tente montée, Harry et Hermione ont un petit doute. La tente fait bien moldue, pas de problème, mais elle est beaucoup trop petite pour tous les accueillir. Surtout après que Bill, Charlie et Percy les aient rejoints. Arthur avoue qu'il y a un risque, qu'ils sont un peu à l'étroit, mais une fois entrés à l'intérieur, Harry et Hermione comprennent qu'ils avaient eu tort de s'inquiéter. L'intérieur est celui d'une résidence à 3 étages, avec cuisine et salle de bain, ce qui fait rappeler à Harry la maison de Mrs. Fig. Arthur explique qu'il a emprunté la tente à son collègue Perkins. Ce serait pas fou si ça existait pour de vrai, ça, quand même.
Ouais, non, mais j'avoue que une petite tente et à l'intérieur, avoir un vrai palace, ce serait assez incroyable.
C'est clair. Ça me donne trop envie, perso. Et ce que je trouve intéressant, enfin c'est une question que je me pose, parce qu'on voit le même type de magie qui est utilisée pour les voitures, c'est avec les Weasley aussi d'ailleurs, les voitures du ministère, mais je me demande, est-ce que c'est possible pour les maisons? Par exemple, est-ce que le terrier, il a ce sortilège-là? Est-ce qu'à l'intérieur, le terrier semble plus grand qu'à l'extérieur?
Je sais que le terrier tient grâce à la magie, mais...
Ouais, il tient, mais j'ai pas l'impression qu'il y a ça à l'intérieur des maisons, et je me demande pourquoi en fait? Parce que si on peut le faire sur des tentes ou sur des voitures, pourquoi pas le faire chez soi, en fait? Genre les Weasley pour avoir une plus grande maison, par exemple.
Je sais pas.
Ouais, mais peut-être que ça demande une magie très puissante et ouais.
Et qu'ils ont... Je pense que ça n'existe pas, mais genre un sort monétisé, quoi. Parce que regarde, la tente, il aurait pu acheter une tente comme ça, sauf que ça coûte trop cher, ça doit être réservé à
ouais,
des gens qui... Ouais, c'est ça. Et les maisons, ça se trouve, c'est pareil. C'est des maisons de base, construites de base, qui bénéficient d'un certain sortilège. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir une maison comme ça.
Mmh. Peut-être faire des papiers, des permis d'agrandissement, tout ça.
Ouais. Mais moi, je veux dire, ça m'embête pas de vivre dans une tente si en fait l'intérieur c'est une maison. Mais oui, c'est peut-être rare en fait. Harry, Ron et Hermione sont de corvée pour aller chercher de l'eau. Ron dit qu'il n'y en a pas besoin pour cuisiner puisqu'ils ont un four dans la tente. Mais Arthur insiste pour se comporter comme des moldus. En chemin, le plan à la main, le trio se rend au point d'eau tandis que le jour est maintenant levé. Ils sont alors capables de voir l'immensité du campement et le nombre impressionnant de sorciers venus des 4 coins du monde. Harry voit pour la première fois un enfant sorcier de 2 ans, c'est la première fois qu'il voit un enfant sorcier en fait. Ce dernier fait gonfler une limace, une baguette à la main, avant que sa mère s'en rende compte et le gronde d'avoir encore pris la baguette de papa. Et lorsqu'ils s'éloignent, ils entendent l'enfant crier car sa mère a fait exploser la limace en marchant dessus sans la voir. Alors déjà que les enfants, ça, c'est un peu deg. Enfin, je veux dire, même nous, quand on était enfants, je sais pas, on peut avoir...
C'est pas les enfants qui sont dégoûtants, c'est leurs actions, on va dire.
Oui, voilà. Tu vois, par exemple, moi, je sais que quand j'étais petit, je jouais tout le temps avec des cailloux et la terre, tu vois. Et genre, j'avais les mains tout le temps sales. Mais en fait, avec la magie, c'est pire, quoi.
Ouais, je suis plutôt d'accord.
Je jouais avec des cailloux, ouais. J'adorais les cailloux. J'adorais les cailloux et les tuyaux. Je mettais des cailloux dans des tuyaux. C'est dit. Voilà. Ouais, j'avais pas de baguette magique, moi. J'étais pas...
Sauf que t'as grandi où pour avoir à disposition des tuyaux?
Bah, j'essayais.
Ça va, c'est trop bizarre.
Je demandais à mon père. J'adorais. je voulais être plombier, je voulais. Voilà. Enfin, en fait ça, j'aimais bien, même pas que.
Ah ouais, t'avais une bonne vocation, c'est sûr que t'es super manuel, toi.
Non, en fait, ça l'aurait pas fait du tout. Enfin, bref. D'autres enfants sont sur des balles et joués et poursuivis par un sorcier du ministère qui rumine contre les parents qui font la grasse matinée. La plupart des occupants de leur côté se lèvent tranquillement pour prendre leur petit déjeuner à l'extérieur avec des feux un peu suspects qui ressemblent quand même un peu beaucoup à des sortilèges. Là, il est fait mention quand même qu'il y a 3 sorciers africains qui font cuire un lapin. Sauf que on est à l'aube. Genre, il est peut-être 7h du mat. Tu manges un lapin?
Décalage horaire.
Ah, désolé, hein. Je sais pas dans quel pays d'Afrique les sorciers font ça. Ça se trouve, les moldus aussi, mais pour moi, c'est un non.
Ah, j'ai une grosse période salée le matin, moi. C'était...
Ah ouais?
Ah ouais, chorizo. Chorizo ou saucisson le matin, sans souci. Hein.
Mais encore maintenant ou ça t'est passé?
Non, je déjeune plus trop maintenant, mais. Mais j'ai une grosse période quand j'étais plus jeune, comme ça.
Bah, tu me diras, pourquoi pas, hein. Les Anglais, ils font ça aussi. Hein.
C'est des pizzas même. Hein.
Ah ouais. Bah,
bacon, j'adore ça, hein, vraiment. Bacon, œuf le matin, si j'avais la force de me lever plus tôt, c'est ce que je ferais. Hein.
Après, qui n'a pas mangé de la pizza froide un lendemain de soirée, on se le...
Ouais, c'est ce que j'ai pensé exactement.
Bah ouais, carrément.
Pour moi, pizza le matin, égal, en fait, c'est pas le matin, c'est le midi, c'est un lendemain de soirée.
Ouais. Où tu t'es levé, genre à 9h, pour faire « Hey, j'ai faim ».
Ouais.
Tu prends la pizza et après tu vas te recoucher.
Ouais. Et elle a une saveur particulière, tu trouves pas? La pizza de lendemain
comme
de soirée.
Comme les pâtes ou le fast-food à 4-5 heures du matin, tu vois. Ça a une saveur particulière.
Mais on est d'accord que la pizza du lendemain, il faut pas la faire cuire. Il faut la manger froide. Et c'est froide qu'elle est meilleure. C'est,
bah oui.
C'est comme ça, c'est scientifique.
Moi, je préfère chaud. Hein.
Après, tu vois, je peux comprendre le délire bacon, œuf le matin, un peu à la version britannique. Par contre, un lapin, je comprends toujours pas. Mais bon, après, passons.
Ouais, c'est particulier, quand même.
C'est des hobbits. Il y a également des sorcières américaines qui font partie de l'Institut des sorcières de Salem et beaucoup d'autres sorciers qui parlent des langues étrangères. Et là, je vous propose juste une petite note Wikipédia sur Salem, parce que ça m'intéresse. Alors désolé Marina, je marche un peu sur tes plates-bandes de paranormal, de l'histoire du paranormal, parce que c'est ta passion. Mais juste Salem, ça m'intéresse par rapport au monde de la magie dans Harry Potter. Alors juste pour resituer, Salem, ça fait référence au célèbre procès de l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord. Ça s'est passé à la fin du XVIIe siècle, entre 1692 et 1693, dans le Massachusetts, dans l'état du Massachusetts, aux alentours de la ville de Salem. Donc c'est pas que à Salem, en fait, c'est autour de Salem dans la région. Et c'est des procès pour lesquels une centaine de personnes vont être arrêtées et certaines exécutées, principalement des femmes accusées donc d'être sorcières. Voilà. Et c'est la chasse aux sorcières la plus importante de l'histoire de l'Amérique, et en tout cas la plus connue et la plus reprise dans la culture populaire. Et un truc que je savais pas, peut-être que Marina, toi tu savais, les historiens aujourd'hui encore, ils cherchent un consensus sur l'explication rationnelle de cette chasse aux sorcières. Alors juste pour le contexte, en fait, les victimes de cette soi-disant sorcellerie, c'était une colonie nouvellement installée dans la région, qui était attaquée par des groupes autochtones qui occupaient le terrain avant que les Anglais l'envahissent, en fait. Et donc, c'était un climat de violence et de danger des deux côtés, d'ailleurs. Hein. Les colons anglais et les autochtones qui occupaient le territoire. Et ce que je savais pas, c'est qu'une des théories principales pour expliquer qu'on est soudainement accusé des femmes de sorcellerie, ça pourrait avoir été causé par une hallucination due à des champignons vénéneux, plus précisément l'ergot de seigle. En gros, c'est un champignon qui a des effets proches du LSD aujourd'hui.
C'est quoi la source? Parce que moi, j'ai d'autres explications que ça. Tout simplement, l'église, les hommes, parce que les femmes qui étaient soi-disant brûlées pour sorcellerie, enfin, pas soi-disant, qui étaient brûlées soi-disant pour sorcellerie, c'était des femmes, des sages-femmes qui travaillaient avec les herbes, qui avaient des connaissances médicinales, qui étaient des femmes indépendantes, des femmes, en fait, qui gênaient l'homme blanc pieux, quoi, en fait. Et c'est
je
ça.
Je connais aussi cette théorie. Pour moi, c'est ça, c'est que les femmes qui étaient attaquées comme sorcières, c'est celles qui, effectivement, utilisaient les herbes pour, je sais pas si on peut dire guérir, mais en tout cas, c'était un peu le début de la médecine, quoi. Et forcément, ça, déjà, le fait que des femmes fassent... déjà, de base, les femmes, elles sont pas bien traitées, quoi. Et le fait qu'elles soient, comme tu dis, Marina, indépendantes, ça a dû jouer. Puis, l'Église, c'est aussi...
Et il y a des hommes qui ont été brûlés aussi, mais parce que ces hommes défendaient ou protégeaient ces femmes-là généralement, donc qui finissaient avec d'autres punitions parfois, mais aussi sur le bûcher. Je crois que c'est un texte de l'Église qui a déclenché tout ça. Alors j'ai rien préparé, donc je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait eu un nouveau texte qui a déchaîné les foules et les gens préfèrent toujours interpréter le texte en leur faveur, et c'est toujours la femme un peu différente qui est attaquée, la femme impure, quoi. Parce qu'une femme, elle doit être mariée à 15 ans, elle doit faire des enfants, elle doit avoir moins de connaissances qu'un homme, elle doit obéir à certaines règles, et évidemment, oui. Mais dans beaucoup de pays, il y a eu des chasses aux sorcières, et à chaque fois, c'était pour ces raisons.
Oui, puis c'est aussi qu'il n'y avait pas tant de femmes qui étaient comme ça, donc c'était un peu comme elles sont pas majoritaires, forcément c'est toujours ça, hein, c'est que les minorités se font attaquer.
Elles dérangeaient les hommes, en fait.
Puis je pense que c'est aussi comme ils comprenaient pas comment est-ce qu'elles arrivaient à guérir certains maux, etc. Bah, pour eux, c'était de la sorcellerie, c'était une œuvre du diable. C'est pas logique, puisque finalement, bah, ça permettait de guérir les gens, quoi. Donc, c'est pas de base, enfin, dans ma tête, c'est pas ce que le diable ferait, mais bon.
Et voilà, voilà, par exemple, malheureusement, quand elle tombait quand elle tombait enceinte alors qu'elle était célibataire, ben, on préférait croire que c'est le diable qui l'avait mise enceinte. Mmh. Parce qu'évidemment, elle est impure de ne pas être mariée et d'attendre un enfant en étant célibataire. Tu vois, plein de choses comme ça.
Ok, d'accord. Bah, c'est vrai que moi, c'était Wikipédia. Mais de toute façon, c'est vrai que, disons que les historiens ne sont pas tous d'accord. En tout cas, sur la chasse aux sorcières de Salem, précisément, ils ne sont pas tous d'accord.
Alors,
sur
une chose est sûre,
les tenants, les aboutissants. Mais...
elles n'étaient pas brûlées parce qu'elles avaient un nez crochu. Ouais. Alors, la sorcellerie, ça existe, hein, parce qu'aujourd'hui, bah, vous voyez bien, ça revient. Il y a des sorcières modernes. Oui, il y avait peut-être des sorcières à proprement parler, elles faisaient des rituels à la lune, ou par exemple, on a déjà rencontré quelqu'un qui, par exemple, aujourd'hui, jardine avec la lune, mais comme les anciens, par exemple. Et rien que ça, de croire au cristaux. De croire à... c'est considéré comme être sorcière pour l'époque.
Les femmes, c'est pas des sorcières, je sais plus comment on appelle ça.
Des Wiccans, peut-être ?
Oui, c'est ça. Tu parles de ça ?
Ouais, j'utilisais sorcière dans le sens large, mais je m'y connais pas plus. Faudrait demander à Candy.
Ouais, une sorcière. ok, c'est très intéressant. Et en tout cas, je me permets de faire allusion à Salem parce que c'est quelque chose qui va revenir dans la saga Harry Potter et plus précisément dans l'univers étendu dans les Animaux Fantastiques, parce qu'on retrouve des allusions à Salem dans le premier volet, parce que voilà, dans l'univers magique, il s'agissait de véritables sorcelleries, en fait, hein, c'est ça qui est suggéré, et que c'est un événement crucial dans l'histoire du monde magique américain. Et donc, je citais le premier film des Animaux Fantastiques, et en fait, dans ce film-là, on se rappelle que Marie-Lou Bellbos, elle fait partie de la Ligue des Fidèles de Salem, et le but de cette organisation, c'est de provoquer à nouveau, en fait, une chasse contre les sorciers. Et on voit aussi, dans le hall du Congrès Magique à New York, il y a une sculpture qui s'intitule le Mémorial de Salem. Donc c'est quelque chose dont on se remémore. Donc c'est un événement douloureux de l'histoire du monde magique américain.
Et aujourd'hui, il y a des gens qui s'attellent à, parce que on a quasiment tous les noms des femmes qui ont été brûlées à cause des chasses aux sorcières. Et il y a des gens qui prennent ces noms et qui enquêtent sur pourquoi elles ont été brûlées exactement. Et en fait, ils leur rendent hommage, ils écrivent leur histoire et pourquoi elles en sont arrivées là, pourquoi on les a brûlées ils leur enlèvent cette image de sorcière et ils rétablissent la vérité.
Je sais pas si Wikipédia c'est bullshit, parce que du coup, vous me faites un peu douter, mais j'étais surpris en fait, parce qu'il n'y a pas eu tant de morts que ça. Je crois que ça parle de 14 femmes. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai dit que c'était principalement des femmes, mais en vrai, je crois qu'il y a eu 6 ou 8 hommes qui ont été exécutés aussi.
Sur les 14 ?
Non, 14 femmes et peut-être 6 hommes.
Ah oui, comme je te disais, il y a des hommes qui ont été exécutés pour les avoir défendus.
Donc déjà, moi, je pensais qu'il y avait eu beaucoup plus de femmes qui étaient mortes.
À Salem.
Et pas autant d'hommes, ouais.
Mais après, il y a eu des chasses.
Oui, par contre, il y a eu des chasses. Ouais, bien sûr.
Après, je pense qu'à Salem, c'est possible que ce soit l'histoire des... Parce que ce que tu dis, Jérémy, c'est pour les procès le procès de Salem.
Oui, oui.
Alors peut-être qu'effectivement, c'était ce que tu dis, mais de manière générale, c'était surtout les gens incultes qui prenaient les femmes qui faisaient un début de médecine pour des sorcières, quoi, puis l'Église, etc., quoi. Mais c'est possible que ce soit effectivement un champignon...
Dans les 14, ils comptent les femmes qui sont décédées dans les cachots aussi.
Je sais pas.
Parce qu'il y en a plein qui ne voyaient pas le jour du procès parce qu'elles étaient tellement maltraitées qu'elles mouraient en fait.
Ouais. Voilà, je crois que c'est exécution, c'est genre leur peine, c'était la peine de mort.
Ouais, donc il y en a beaucoup qui sont mortes avant.
Alors pour revenir à la Coupe du Monde de Quidditch, le trio finit par pénétrer. La fanzone des Irlandais où tout est vert. Une voix les appelle, c'est Seamus Finnegan et Dean Thomas, leurs camarades de Poudlard. La mère de Seamus leur demande s'ils sont pour l'Irlande ce soir, Ce à quoi ils répondent par l'affirmative, mais une fois éloignés, Ron fait remarquer que c'est un peu difficile de dire le contraire quand on est entouré de fans. C'est un peu PGOM, quoi.
Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Ça fait vraiment... les gros footeux, là, ils te regardent et ils te font... Alors, t'aimes le foot ? Et
t'as envie de dire, pour qui ?
Oui, oui.
Ouais, tu te fais paguer sur le vieux port de Marseille avec ton écharpe du PSG, quoi.
C'est la mauvaise idée.
De leur côté, la décoration des supporters bulgares fait la part belle à un joueur de l'équipe en particulier, au visage renfrogné et inexpressif, avec de gros sourcils. Ron explique aux deux autres qu'il s'agit bien sûr de Victor Krum, l'attrapeur vedette de l'équipe. Alors c'est marrant, j'ai noté à ce moment-là que Hermione, elle dit qu'il a l'air grognon en portrait. Et c'est assez marrant parce quand on sait ce qui va se passer entre deux, quoi. Sa première impression n'est pas forcément très bonne, Hermione, en tout cas physiquement.
Ouais, mais quand on sait... Enfin, Ron, il est aussi du genre grognon, quoi. Enfin,
ah, tu fais le.
Dans son caractère. Alors, est-ce que finalement, ceci explique cela ? Je ne sais pas, mais. Voilà.
Après, peut-être que Hermione fait pas, donne pas trop de crédit au physique. J'ai l'impression qu'elle s'entend avec Krum parce que Krum, finalement, il est pas dans l'apparence, quoi. Je veux dire, toutes les filles qui l'adulent parce que ouais, c'est une star, bah, en fait, ça l'ennuie et lui, il préfère être dans son coin et lire des livres. Et je trouve qu'il y a peut-être des points communs qui se forment comme ça, en fait, avec Hermione, mais c'est pas forcément une attraction physique. Après, pour Ron, je sais pas, mais c'est vrai que Ron et Victor Krum ont peut-être des points communs.
Et je pense aussi que justement, c'est le fait qu'elle ne s'intéresse pas à lui qui a fait que Krum s'est intéressé à elle, parce que je pense que ça...
Ouais, voilà, exactement.
Ouais. Ouais, je pense que ça doit le saouler, les nanas qui le suivent tout du long, tout ça, et je pense que finalement, le fait qu'elle n'en ait rien à faire de lui, ça l'a peut-être poussé à s'intéresser à elle, et voilà, quoi.
Ouais, tout à fait. Le trio finit par trouver le robinet d'eau qu'il cherchait. Devant eux, deux sorciers se disputent. Le plus vieux, Archie, porte une chemise de nuit à fleurs et il assure à l'autre qu'il l'a trouvée dans un magasin moldu, donc c'est tout bon. Sans écouter son ami qui lui rétorque que c'est quand même un habit pour femme moldu et qu'il devrait plutôt porter un pantalon comme lui. Mais Archie préfère, je cite, « que son intimité puisse respirer à son aise ». C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Ça revient à la robe de sorcier.
Ouais. Ce qui provoque un fou rire de la part d'Hermione.
Sur le trajet du retour à leur tente, les trois amis croisent des visages connus tels qu'Olivier Dubois, l'ancien capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Après avoir terminé son cursus à Poudlard, il est fier d'annoncer à ses amis qu'il a signé dans l'équipe de réserve du club de Flakmar. Alors le club de Flakmar, franchement, c'est pas une équipe dégueu, hein. C'est la plus ancienne équipe de la Ligue. L'équipe a remporté 22 fois la Coupe de la Ligue et 2 fois la Coupe d'Europe. On connaît même Lim de l'équipe qui a repoussé les terribles cognards et lancé droit le swaffle. Et ses joueurs arborent des robes bleu marine portant le motif du club, à savoir deux joncs d'or croisés. Donc cette info nous vient du Quidditch à travers les âges. Bon, certes, il est dans l'équipe de réserve, mais je trouve que c'est une équipe assez sympa pour débuter sa carrière.
Mais c'est quoi l'équipe de réserve ? C'est quoi ? C'est les remplaçants finalement ?
Ouais, je pense.
Ouais, je pense que
c'est ça.
C'est comme l'équipe. Souvent dans les grands sports, ouais, il y a une équipe A, une équipe B, quoi. Ouais.
D'accord.
Mais oui, je pense qu'Olivier Dubois.
T'es pas amené à jouer tous les matchs, mais ça dépend de la composition de l'équipe par l'entraîneur, je pense.
Mais je pense qu'Olivier Dubois, il vit le Quidditch, quoi. Il se lève le matin pour le Quidditch, quoi.
Oui, la mort d'un élève, ça l'émeut pas pour admirer le Quidditch.
Quand on voit à quel point il est vénère, même à Poudlard, alors que je veux dire, c'est des poussins, quoi. C'est une équipe de poussins et il est à fond dedans, oui, mais comme tu dis, il y a un élève qui meurt. Bon,
professeur McGonagall, on peut pas annuler un match de Quidditch.
Mais c'est ça, c'est Harry, je sais plus à quel moment il dit Harry, mais Harry attrape. Enfin, même si tu tombes de ton balai, attrape
ouais,
le goal.
C'est ça, ouais.
Dedans. Enfin, vraiment, c'est. Waouh!
En plus d'Olivier Dubois, il croise également Ernie Macmillan, mais aussi Cho Chang, le crush d'Harry. Elle lui fait signe de la main avec un grand sourire en sa direction, qui, Harry, paniqué comme un ado assez gauche, renverse une grande partie de son eau en la saluant. Évidemment, Ron ne manque pas de se moquer de son ami. Bon, Harry, pour détourner l'attention de Ron, lui montre un groupe d'adolescents qu'ils ne connaissent pas.
Ron suppose qu'ils viennent sûrement d'une école de sorcellerie étrangère. Alors, on peut se poser la question sur le nombre d'élèves à Poudlard. Parce que une école dans un château, il y a des centaines et des centaines d'élèves, tu ne peux pas connaître tout le monde.
Ouais, mais là, je pense
si, ou les têtes sont familières.
Là, je pense que c'est juste qu'ils parlent une autre langue que l'anglais, en fait. Et qu'ils sont ados. Ouais, moi, je l'ai compris comme ça. Ils parlent une autre langue, ils ont le même âge et ils se disent « Ah, c'est bizarre ».
Ok.
Mais vous avez déjà posé la question sur le nombre d'élèves qu'il y a à Poudlard, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient si nombreux que ça. En fait, quand tu réfléchis, j'ai pas l'impression qu'ils sont... par année, je pense qu'ils sont une dizaine.
En fait, il y a une grosse incohérence. Il y a toujours une incohérence sur le nombre d'élèves parce que le problème, c'est que il y a que 5 garçons dans le dortoir pour l'année de Harry. Donc du coup, et en fait, si tu additionnes ça à garçons plus filles et toutes les maisons inclus, et ben en fait, tu tombes sur un chiffre qui est beaucoup trop bas par rapport à la vision qui t'est donnée de Poudlard.
Alors, justement, ça, je pense que le jeu Hogwarts Legacy répond un peu à la question. C'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce jeu. C'est se visiter les dortoirs de Gryffondor. Enfin, moi, j'avais choisi Gryffondor. Et on se rend compte qu'en fait, il y a pour les garçons comme pour les filles, en fait, il y a plusieurs étages de dortoirs. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, ils dorment peut-être par année. Peut-être par année, enfin, tu vois ce que je veux dire. Peut-être ou alors, peut-être qu'il y a plusieurs dortoirs de première année, plusieurs dortoirs de seconde année. Donc,
non, mais peut-être. Après, le film a l'air de suggérer quand même que l'année de. Enfin, tu vois, même pendant la répartition, il n'y a pas beaucoup d'élèves, tu vois, qui se font répartir dans l'école des sorciers.
Ouais, c'est vrai. Ouais,
tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est bizarre. C'est bizarre.
C'est difficile de se référencer au film parce qu'il ne peut pas non plus avoir une centaine de figurants, quoi. Moi, je mise plus sur, je dirais, une dizaine d'élèves par année. Dizaine, entre 10 et 15. Et après, si on additionne, je pense que c'est assez cohérent.
Alors, Ron, pense que c'est une école de sorcellerie étrangère, puisque son frère Bill a eu un correspondant qui étudiait dans une école de magie au Brésil. Savez-vous comment s'appelle? Alors, je pense que Jérém, t'as fait tes recherches, je suis sûre.
Non. Et le nom m'échappe, là. Je sais quelle question tu vas poser.
Camille, tu sais quel est le nom de l'école de sorcellerie au Brésil?
Pas du tout.
C'est pas absolument. Genre... Attends, je peux essayer de deviner.
Vas-y.
C'est pas un truc genre
Non.
Brascaban?
Non.
Ça ressemble à Azkaban?
Non.
Ok, non, je confonds avec autre chose. Non, je sais plus.
Castello Bruxo.
Ah, ouais, j'avais le Bruxo dans... Ouais, Castello Bruxo.
Elle accueille tous les étudiants venus de l'Amérique du Sud. Et c'est un immense édifice carré de pierres dorées qui est comparable à un temple. Et ça se situe en pleine forêt tropicale. Et j'espère qu'il y a un sort contre l'humidité parce que...
Mais c'est surtout...
Tente dans une forêt tropicale, 100% d'humidité.
C'est surtout si c'est la seule école de magie dans toute l'Amérique du Sud, ça doit être une école qui doit être énorme, parce que statistiquement, ça doit accueillir beaucoup plus d'élèves que Poudlard. Poudlard, c'est juste la Grande-Bretagne.
Moi, je compare ça à une sorte de temple maya.
Ouais. Mais un peu comme l'école, je crois qu'elle a cité qu'une école sur le continent africain, c'est pas Ouagadou, je crois, le nom de l'école.
Ouais.
Et c'est la seule qu'on connaît, mais s'il n'y a qu'une école sur le continent africain... Mais l'école, elle doit être immense. Parce que si déjà, en Europe, tu as une école en Grande-Bretagne, une école en France, une école en Europe de l'Est, et encore, il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît pas.
Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes dialogues dans toutes les parties de Hogwarts Legacy. Je peux en parler d'un dialogue dans Hogwarts Legacy ou c'est...
En plus, tu es au tout début, donc je pense que c'est bon.
Ok. Bah justement, il y a une élève qui a été transférée de l'école de magie africaine, puisque sa maman a été recrutée... en tant que prof à Poudlard, donc du coup, l'étudiante...
C'est parce que vous êtes Gryffondor, ça, tous les deux.
Dans l'école d'Afrique et du continent africain. Et en fait, elle dit que Poudlard, c'est rien à côté.
Ah ouais, ok,
que c'est,
cool.
Que c'est, si je ne me trompe pas, c'est... En fait, c'est creusé dans une montagne et c'est juste énorme. Poudlard, c'est rien à côté.
C'est intéressant. Mais le jeu, on tease un peu le jeu là, mais le jeu, il est exceptionnel sur... il fait pas mal de petits clins d'œil à l'univers livre. Forcément, oui. Il y a l'univers visuel des films, mais sur les livres, il y a des petits clins d'œil qui font plaisir aux lecteurs. Et notamment, par exemple, on parlait tout à l'heure de la salle commune de Gryffondor. Moi, j'ai pas testé dans la mienne, Mais c'est un peu comme dans le livre, si jamais on est un garçon et qu'on essaie d'aller dans le dortoir des filles, l'escalier se transforme en toboggan. Et ça, c'est une référence au livre, par exemple.
Et quand on... Moi, je me suis amusé à créer un personnage féminin et les personnages féminins peuvent rentrer...
Alors ça, c'est pas normal. On l'a déjà dit à la fréquence. Pardon.
Et du coup, ils ont vraiment respecté ça et je trouve que c'est génial, en fait. Parce que du coup, j'avais pas eu ce truc-là et un collègue qui joue aussi m'avait raconté ça et voilà, effectivement, ils ont bien pris en compte ça. Mais il y a plein de clins d'œil dans le jeu. Enfin, pour rentrer dans la salle de cours de divination, c'est pareil, c'est une trappe avec une échelle qui descend. Et c'est incroyable. Enfin,
alors que dans le film, c'est pas comme ça.
Et justement,
j'ai l'impression qu'ils ont pensé à tout, en fait.
Ouais.
L'étudiante disait que c'était différent à Poudlard, parce qu'à Poudlard, ils utilisent la magie, la baguette, pardon. Alors que dans son école, en fait, il n'y avait pas de baguette. Pour elle, la baguette, c'est un apparat, en fait.
Mm-hmm.
Et
bien, parce qu'ils ont repris l'écrit de J.K. Rowling.
Oui, c'est ça, je trouve ça intéressant. Et juste une dernière petite précision pour protéger l'école au Brésil. En fait, ils font appel à des petites créatures, un petit esprit, parce que bon, dans une forêt tropicale, je pense que les créatures magiques, ça doit y aller, les créatures non magiques aussi. Donc du coup, ils font appel à une Caipora. C'est un petit esprit velu, incroyablement espiègle et malicieux. La nuit, des caporas veillent sur les élèves de Castelbruxo et sur les créatures habitant la forêt. Mmh. Et il paraît que c'est beaucoup plus nuisant que Peeves.
Ok.
Voilà.
Bah, peut-être qu'on verra ça dans les Animaux Fantastiques un jour, si c'est pas annulé.
Me lance pas dessus.
Après réflexion, Harry se dit que c'était vraiment réducteur de penser que Poudlard est la seule école de sorcellerie au regard de nombreux représentants de tant de nationalités lors de la Coupe du Monde de Quidditch. Évidemment, Hermione, elle n'a pas l'air surprise de moins du monde, sûrement parce qu'elle l'a encore lu dans un énième livre, suppose Harry. De retour à la tente, il retrouve Monsieur Weasley en train de batailler pour allumer un feu à l'aide d'allumettes. Le problème, c'est qu'à chaque fois, quand il réussit à enflammer une allumette, il panique, puis jette l'allumette, et la flamme s'éteint, évidemment.
Tu vois, ça, c'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure. Genre, d'accord, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont nés avec un téléphone à la main, mais ils savent craquer une allumette, quoi.
Oui, mais ils craquent pas des allumettes, les sorciers.
Ouais,
ils ont la magie pour ça.
Mais tu vois ce que je veux dire, genre, les moldus, ils savent le faire. Alors qu'un sorcier, il sait pas le faire.
Oui, parce que ça n'existe pas dans leur monde.
Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont l'air vraiment débiles, quoi.
Grâce à la patience d'Hermione, un feu brûle devant la tente une heure plus tard. Pendant cette heure-là, face aux nombreux passages des gens du ministère devant la tente de nos amis, Monsieur Weasley agrémente ses saluts cordiaux par des gossips sur les coulisses du ministère. Alors, il fait un peu la sarre devant Harry et Hermione qui sont les seuls à s'en préoccuper parce que ses enfants ont déjà entendu mille fois ces histoires. Ils ont notamment vu passer Quebert Fauscret, chef du bureau de liaison des gobelins, Gulbert Frippmin, qui fait partie de la commission des sortilèges expérimentaux et qui a des cornes sur la tête depuis un moment. Mm-hmm. Arnold Bondupois, un oubliator, membre de la brigade de réparation des accidents de sorcellerie, et Morose et Funstar, des langues de plomb. Mais Harry et Hermione n'ont jamais entendu parler des langues de plomb. Monsieur Weasley leur explique qu'il travaille au département des mystères, mais personne n'en sait plus sur leur rôle au sein du ministère.
C'est le métier qu'on avait choisi dans le dernier épisode.
C'est ça. Pendant le repas, Monsieur Weasley salue Ludo Verpet qui s'avance vers eux, l'air ravi, un magnifique temps, une organisation sans anicroche, parfait. Mais le groupe de sorciers qui passe derrière Ludo Verpet ne semble pas aussi détendu que lui. En le voyant, Percy, petit hypocrite, n'hésite pas à lui serrer franchement la main malgré la vie tranchée qu'il a eue la veille sur les compétences de Ludo Verpet. Monsieur Weasley en profite pour lui présenter ses enfants et Harry. Évidemment, le regard de l'employé du ministère se dirige droit vers sa cicatrice. Monsieur Weasley en profite pour faire les présentations officielles en indiquant que c'est grâce à Ludo Verpet qu'ils ont eu de si bonnes places à la Coupe du Monde. D'ailleurs, ce dernier propose à Arthur de parier sur l'issue des matchs. Monsieur Weasley se lance et parie un galion sur la victoire de l'Irlande. La mise paraît décevoir un peu Ludo Verpet. Mais les jumeaux, qui sont un peu moins frileux que leur père, proposent
37 galions, 15 morniers et 3 noises que l'Irlande va gagner, mais que Crum va attraper le Vítor. Et en plus de ça, à leur mise, les jumeaux ajoutent une baguette farceuse. Moi, ce qui me perturbe à chaque fois, c'est que j'aimerais bien connaître la devise.
Ouais,
enfin, la valeur du taux de change en fait des galions, des morniers et des noises. En fait, on sait que, enfin, on suppose du coup que un galion, c'est pas fou.
Bah, je sais pas, ça a l'air beaucoup pour les Weasley, par exemple.
Pour les Weasley, oui, mais pour Crum, pour Ludo Verpès, c'est un peu décevant.
Le galion, c'est le. Je crois qu'il y a les noises. Ensuite, il y a les.
Il y a les morniers et les noises.
Morninoise et ensuite galion. Donc galion, c'est. Je sais pas, j'ai toujours vu ça comme 1 euro. Je sais pas.
Mais pour moi, ça fait peut-être plus. Pour moi, c'est plus. C'est un peu comme. Pas comme. Ouais, non, pour moi, ça fait plus. Je sais pas comment le dire.
Peut-être un peu plus parce que 37 galions, etc., c'est la totalité des économies de.
Ouais.
Des jumeaux.
Je vois un peu ça comme entre les francs et l'euro. Genre, à 1 euro, c'était, je sais pas, 6 points, quelque chose francs. Un peu ça, genre un galion, c'est peut-être 7-8 euros en vrai. Je sais pas, pour moi, j'ai l'impression que le galion vaut un peu plus cher, mais après, c'est encore une fois, le monde de la magie a tellement son indépendance, a tellement sa propre culture que c'est bizarre d'accoler un montant financier moldu sur le monde de la magie parce que c'est pas le même fonctionnement, quoi. Donc c'est pour ça que je sais pas s'il y a un consensus vraiment objectif sur combien coûte un galion, combien coûte une mornie, combien coûte une noise. Mais je crois qu'on peut savoir, par exemple, le prix d'une baguette. Je crois que c'est dit dans Harry Potter. Donc du coup, faudrait comparer au studio Harry Potter, genre combien coûte la baguette.
Percy est choqué que ses frères puissent proposer une baguette farceuse à un ministre. Mais Ludo Verpès, lui, il est impressionné par la qualité de la baguette et propose même aux jumeaux de leur en offrir 5 galions.
Qu'est-ce qu'il va faire avec ça?
La reproduire et la vendre plus cher.
Oui, tiens, ça serait bien à Ludo Verpès, ça.
Ouais, c'est carrément son genre.
Faisant fi de la réprobation de Monsieur Weasley de voir ses deux garçons parier, Ludo Verpès inscrit tout de même le nom des jumeaux sur son petit carnet de Paris. Ludo demande à Arthur une tasse de thé en attendant qu'il puisse repérer Barty Croupton. Il ne comprend rien à ce que le premier ministre bulgare peut lui raconter, et la connaissance de centaines de langues étrangères de Barty Croupton peut être précieuse dans ces cas-là. La conversation glisse sur Bertha Johnskins. Verpès est persuadé que c'est encore sa mémoire qui lui a fait défaut et qu'elle a sûrement perdu comme d'habitude et qu'un jour elle va revenir comme si de rien n'était. Arthur lui suggère timidement qu'il serait peut-être temps d'envoyer des agents pour la chercher. Mais Ludo Verpès lui répond que c'est ce que Croupton lui suggère assez régulièrement, mais qu'ils n'ont pas assez de personnel.
Juste un petit truc juste avant sur les langues. Il y a un truc, ça c'est vraiment l'humour de J.K. Rowling, ça me fait rire. Il est cité quelques langues que c'est parlé Barty Croupton, et une des langues, c'est la langue de bois. Donc Barty Croupton sait parler la langue de bois. Donc a priori, dans le monde magique, la langue de bois, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça signifie autre chose que dans le monde moldu. Voilà, juste ça m'a fait marrer.
Mais je trouve aussi que le fait que Ludo se fiche totalement, j'ai déjà oublié le nom de la
meuf qui
ouais, Bertha, c'est ça, Bertha. Ouais. Le fait qu'elle ait disparu, qu'ils disent oh, bah c'est comme d'hab, sa mémoire lui joue des tours, enfin c'est vraiment une nonchalance, enfin je sais pas, c'est quand même un employé, c'est quand même une collègue de boulot, c'est quand même une personne, et bof, elle s'est perdue, c'est pas grave, quoi. Enfin,
c'est un peu l'image de ce qu'il est. Ouais,
après, ça lui est déjà arrivé par le passé, disparaître et de revenir.
Ouais.
Mais quand même, par acquis de conscience, tu cherches un minimum si elle va quand même bien.
Oui.
Surtout avec les moyens qu'ils ont.
Oui, d'accord, mais bon, t'inquiète pas quand ton chat, il disparaît 3 jours parce qu'il l'a déjà fait, mais là, c'est quand même une personne, quoi. Enfin, je sais pas, c'est...
Ouais. Ludo Verpès, il est un peu comme ça, je veux dire, il se tracasse pas. Par exemple, il dit « Ah, mais tout va bien, tout est excellent
ouais, !»
Et tu vois, il y a ses collègues du ministère derrière qui sont en train de courir dans tous les sens, et lui « Mais non, il n'y a pas de problème !»
Ça me fait trop penser aux gars dans un projet, vous savez, les projets de cours, là où on est 4, il y en a toujours un qui en fout pas une, et bah oui, bah, ça s'est très bien passé. Ouais, c'est ça. Oh, bah, ça s'est très bien passé, le projet, bah oui, les trois autres...
On va avoir la moyenne, c'est facile.
Ouais, c'est ça. Et les trois autres, ils ont passé des mois à bosser, ouais. Puis lui, il va récolter tous les tous les lauriers, quoi.
Levez la main, ceux qui nous écoutent, là, les Ludo Verpé parmi vous. Dénoncez-vous.
D'ailleurs, Croupton fait son apparition après avoir transplané à côté de leur feu de camp. À l'instar de Verpé avec sa vieille robe de Quidditch, Croupton ressemble à un directeur de banque. Harry pense que même Monsieur Dursley ne pourrait pas deviner qu'il est un sorcier. Croupton informe Verpé que les Bulgares souhaitent 12 chaises de plus dans la tribune officielle. Percy, tout en courbette, propose à son patron une tasse de thé. Croupton accepte cette proposition de la part de Weasley. Il n'en faut pas moins pour déclencher un fou rire chez Fred et George.
C'est horrible.
C'est horrible parce qu'il est vraiment... il se démène pour son patron et son patron n'est même pas capable de se rappeler de son nom.
Ouais, c'est très humiliant, c'est surtout humiliant. Que... Il prend quand même vraiment son boulot à cœur et là finalement bah on se rend bien compte que Croupton il en a rien à foutre de Percy quoi, enfin c'est juste un
subordonné.
Ouais, c'est ça, et ouais, enfin j'ai quand même un peu de la peine pour lui quoi. Il a beau être un personnage un peu insupportable, Percy, j'ai un peu de la peine pour lui quand même.
C'est un peu comme sur la faute d'orthographe sur les cryptos dont on parlait tout à l'heure, c'est irrespectueux de... Bah, je comprends pas, genre, les personnes qui vont dire un nom sans, je sais pas, c'est genre, soit tu le dis pas parce que tu t'es pas sûr, mais t'essayes pas d'inventer un nom de famille, c'est vrai que c'est très irrespectueux.
Ça, je comprends un petit peu plus, c'est comme quand tu vas au Starbucks et qu'ils vont mal orthographier ton, ouais. Ton prénom, c'est, je peux encore comprendre encore, parce que bon, je sais pas comment est-ce qu'ils font les réservations, mais bon, s'il y a beaucoup de monde, etc., ils ont peut-être pas trop le temps de vraiment orthographier les noms de tout le monde, mais, à l'oral, c'est un petit peu plus irrespectueux, je trouve, ouais, mais à l'écrit, bon.
Par exemple, les gens qui m'appellent Marine, et je les corrige en disant que je m'appelle Marina, me disent que Marine, Marina, c'est pareil.
Bah ouais.
Et
bah
juste
ouais.
Un
bah
A.
Non, mais ça, par
bah
contre,
non, c'est pas pareil. Sinon, mes parents, on m'aurait appelé Marine, en fait.
Non, mais ça, c'est irrespectueux, par contre. Parce que, tu tombes une fois, mais après, tu dis pas, bah non, c'est pareil. Ça, par contre...
Bah ouais. Ah, vous appelez Jean-François ? Bah si je vous appelle François-Jean, c'est pareil, non ? C'est juste, c'est dans l'autre sens. Bah je vous appelle François-Jean maintenant. N'importe quoi.
Arthur et Barty se lancent dans une discussion passionnante sur l'embargo des tapis volants. Bon, apparemment, c'est un sujet politique, politico-politique, parce que pour info, en Angleterre, les tapis volants sont considérés comme des artefacts moldus par le bureau des enregistrements des objets à ensorcellement prohibé. Et apparemment, un certain pays voudrait introduire les tapis volants comme mode de transport familial en Angleterre, en fait. Donc du coup, ça pose des questions de normes, etc.
En fait, ça a existé, puis ça a été rendu prohibé. Et puis là, ensuite, ils veulent faire revenir les tapis volants, quoi. Je pense que c'était trop dangereux, en vrai. Moi, je monte pas dessus. Hein.
Moi, j'ai toujours eu des questions, même petit, j'avais des questions quand même vachement pratiques sur les... Parce que le balai volant, bon, même si t'es passager, tu vas t'accrocher à la personne qui est devant toi, mais le tapis volant, comment est-ce que tu fais pour tenir sur un tapis volant? Ça doit être vachement dangereux. Mmh. Un
coup, ce rêve plaît.
Tu veux vraiment me casser les oreilles durant cet enregistrement? Non, mais pour...
J'avais aussi cette image en tête. Hein.
En fait, depuis le début de l'enregistrement, j'ai dit à Jérémy, par contre, je t'entends super fort dans mon casque. Là, à tel point que je l'entends tellement fort, on ne peut pas régler, j'ai qu'un écouteur sur mes oreilles.
Et effectivement, que... je parle pas plus fort.
Et il fait que de crier depuis le début de l'enregistrement. Tu me casses les oreilles, littéralement, je suis désolée. Mais... Mais c'est parce qu'en fait, je parle moins fort que Jérémy, et donc du coup, on peut pas trop régler et tout. Enfin bref, voilà, vous avez les coulisses. Par la suite, la conversation s'oriente sur la quantité de travail apportée par la Coupe du Monde. Mais Ludo Verpé, à l'inverse de Barty Croupton, semble s'amuser comme un petit fou. Surtout avec ce qu'il s'organise à Poudlard. Mais Barty Croupton change de conversation en rappelant à Verpé qu'il devrait aller voir le Premier ministre bulgare. Mais n'oublie pas de remercier Weasley pour sa tasse de thé.
Il n'a même pas bu, je crois.
Alors,
non, il l'a vide. Ouais.
Alors, on sait que Percy et Monsieur Weasley sont au courant pour ce qui se passe à Poudlard, mais ils ont interdiction d'en parler aux étudiants. Donc là, ça commence un peu à teaser sur, sur le tournoi des trois sorciers.
Ouais, parce que ce que fait VRP, Percy, il a fait exactement la même chose la veille, hein, donc bon. Mm.
Mais je crois que Bill aussi est au courant. En fait, je crois que tous les adultes, sont au courant.
Tu t'as dit Bill ?
Ouais.
Ouais, Bill, il est au courant parce que c'est lui qui fait les dragons, non ?
Oui, c'est lui.
Pour le
lui.
Tournoi des trois sorciers.
Oui, puis à un moment donné, il dit « Oh, moi, j'aimerais bien retourner à Boudlard cette année. »
Ah non, c'est Bill ou
non,
Charlie,
c'est Charlie
pour...
C'est Charlie.
Tout le temps.
C'est Charlie qui élève les dragons en Roumanie et qui a appelé pour... Ouais.
Bah, je pense qu'ils sont... Je pense qu'il n'y a que les enfants, entre guillemets, qui sont pas au courant. Hein.
La nuit tombe alors que tous les sorciers présents attendent le début du match. Pour les faire patienter, les vendeurs ambulants font le tour des allées. Ron a économisé tout l'été pour ce moment. Harry, lui, se précipite vers un chariot de multiplettes. C'est un objet qui permet de voir et revoir des actions, de faire des ralentis et de faire de l'image par image au merveilleux prix de 10 galions. En gros, c'est une mini caméra, quoi.
Ah, c'est quand même mieux parce que tu peux refaire des rewinds, regarder au ralenti ce que tu viens de voir.
C'est ce que tu peux faire sur l'iPhone, non ?
Ah ouais. Moi, c'est vrai que je suis un boomer, j'utilise pas ça.
De toute façon, l'iPhone, il coûte pas 10 galions, je pense.
ouais.
Ron regrette maintenant d'avoir dépensé toutes ses économies dans un chapeau à trèfle et dans une figurine de Trump. De Crumb. C'était le mélange de Crumb et Trump.
T'imagines, il a acheté une figurine de Trump.
Mais Harry commande 3 multiplettes pour ses amis et devant la gêne de Ron, lui dit que ça sera son cadeau de Noël pour les 10 ans à venir. Hermione, elle, de ce côté, se charge de l'achat des programmes. Un grand gong se fait entendre. Et c'est le moment qui indique le début de la Coupe du Monde et Arthur est tout excité.
Merci Marina pour ce chapitre.
Merci Jérémy.
Merci à Camille pour nous avoir accompagnés. C'est un plaisir.
Merci à vous de m'avoir invité.
Mais c'est pas encore terminé puisque là, avant la volière, il nous faut choisir un personnage qui nous a particulièrement marqué. Camille, si tu devais retenir un personnage en bien ou en mal dans ce chapitre.
Ah, je pense que ce serait Arthur parce qu'il s'amuse comme un petit fou à imiter les moldus. Et c'est assez drôle, toutes les actions.
Son enthousiasme.
Ouais, c'est ça.
Et toi, Marina ?
Moi, c'est Ron, juste pour la fin. Il m'a fait penser à moi. Il a économisé pour s'acheter plein de goodies. Il dépense tout son fric pour des trucs nuls.
Et à la fin, il est dégoûté.
Okay, ouais, parce qu'il voit un truc. Genre, j'ai plus d'argent pour acheter ça. Pourquoi ?
Ou c'est un peu toi au resto. Genre, tu vas réfléchir 10 000 ans. Genre, tu vas comparer et tout. Puis finalement, tu vas partir sur un plat. Et tu vas goûter le mien, tu fais « Oh, j'aurais dû prendre ça !» Et moi, un peu en lien avec mon titre, je prendrais Ludo Verpé, en fait. Je prendrais Patrick Chirac. juste pour son impertinence, son côté chill, alors qu'en fait, il devrait être en full panique et en fait, il y a tout le glitch dessus. Enfin, voilà, je choisis Ludo Verpé. Il est maintenant temps de passer à quelques hiboux sonores qu'on a reçus dans la volière. On commence par un premier hibou qu'on a un petit peu coupé et qui nous a été envoyé par Henri. On écoute ça.
Et bonsoir, la fréquence 9¾. J'espère que ça a bien la forme. Je me demandais qu'est-ce qui se serait passé dans la saga Harry Potter et dans la vie en général si Monsieur Ollivander n'avait pas donné la fameuse baguette jumelée avec celle de Voldemort à l'époque. S'il avait une autre baguette, qu'est-ce qui se serait passé ? Et notamment à la fin du tome 4, dans le cimetière, à la fin de la Coupe de Feu. Voilà, qu'est-ce qui se serait passé ? S'il y avait une autre baguette, je pense qu'il serait mort, Harry Potter. Je pense qu'il serait vraiment décédé et qu'il n'y aurait pas eu de suite. Voilà, j'aimerais bien votre opinion. Continuez comme ça. Je sais que vous avez besoin de force, alors on vous envoie de la force. Et je vous informe que je reprends tout depuis le premier chapitre du tome 1. Voilà, donc de longues écoutes sont à venir pour moi.
Merci Henri pour ta question. Alors, que se serait-il passé si Harry n'avait pas eu une baguette jumelle à celle de Voldemort ? Alors, c'est une vaste question. Mais globalement, de toute façon, c'est pas forcément très clair. Je trouve, on peut encore débattre sur à quel moment Harry est en réel danger de mort dans la saga, sans même changer l'histoire, en fait, et les baguettes, par exemple. Parce que dans le cas du cimetière, on peut se demander même, sans changer la baguette, est-ce que Harry serait mort ? Parce que Voldemort, il a déjà le sang de Lily dans ses veines à ce moment-là. Alors ma théorie, ce serait quand même, mon opinion personnelle, ce serait quand même dire que oui, il est en danger de mort. Et s'il avait perdu le duel, bah, il serait décédé, Harry. Parce que juste, ça me semble important, en tout cas, ça semble important pour Dumbledore que Harry se sacrifie dans les reliques de la mort. Ça a l'air d'être quelque chose de primordial pour que seul leur crux soit détruit, mais que Harry puisse survivre. Donc, si on suit cette théorie, qui est la mienne, si Harry avait eu une autre baguette, il aurait très certainement été surpassé par Voldemort, il aurait perdu son duel, donc il serait mort. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Henri. Et on peut penser aussi dans le tome 7, avec la bataille des 7 Potters, où Harry il est sauvé parce qu'il y a sa baguette qui agit par elle-même. Donc là, pareil, sans baguette jumelle, si vraiment Harry peut mourir de la main de Voldemort, bah, il serait mort aussi à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez un commentaire ou quelque chose à dire.
Non, je suis plutôt d'accord. Je pense que il n'y aurait pas eu de tome 5, 6 et 7. Tout simplement.
Voilà, ouais, ouais.
Parce que Harry, je ne vois pas Harry à 14 ans gagner contre Voldemort. Je pense qu'il était vraiment trop inexpérimenté à ce moment-là. Donc je pense qu'il serait tout simplement mort avec le duel, puisqu'il n'aurait pas eu les baguettes jumelles qui auraient fait le. Je sais plus comment on appelle le phénomène, mais.
A priori, incantatum.
C'est ça. Et donc, je pense qu'il serait mort à ce moment-là. J'ai aucun doute sur ça. Donc,
tu voulais dire un truc, Marina ?
Non, parce qu'en soi, c'est pas la baguette jumelle qui fait naître la rivalité entre Voldemort et Harry.
Non, bah non, parce que la.
Donc, c'est la prophétie, c'est l'histoire que Voldemort s'est mis en tête la prophétie et qu'il l'a provoquée lui-même. Donc, en fin de compte, la baguette jumelle, c'est qu'un. Comment dire ?
C'est un détail, mais ça permet quand même à Harry de survivre dans le tome 4.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est un hasard.
Ouais. En fait, par deux fois, le fait qu'ils aient une baguette jumelle avec la même plume de Fumsec, ça sauve la vie de Harry, en théorie. Parce que dans le cimetière, il y a ce fameux prior incantatum. Et dans les reliques de la mort, il y a carrément sa baguette qui va protéger Harry, qui va sauver Harry, justement parce qu'ils ont une baguette jumelle. Donc on peut se demander, effectivement, s'il n'avait pas eu de baguette jumelle, Harry, il n'aurait pas été protégé par sa baguette, en fait, quelque part. Mais après, il y en a qui soutiennent la théorie que, de toute façon, Harry n'a jamais été en danger de mort. Parce que si tu pars du principe que seule la protection de Lily compte, et dès que Voldemort, il utilise le sang de Harry, du coup, il se condamne à mort, et ben en fait, tu pars du principe que Harry, même si Voldemort lui lance un Avada Kedavra dans le cimetière, il ne meurt pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Puis je pense que, du coup, ça enlève un peu du piment à l'histoire. Je pense que Harry, il est en vrai danger de mort, donc je dirais que dans ce cas-là, oui, il serait mort, en fait, simplement.
Peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment le fait qu'il se sacrifie qui fait que Voldemort, du coup, détruit son Horcrux au lieu de tuer Harry directement. Je ne sais pas si c'est vraiment clair dans la saga. Peut-être que, du coup, ça aurait tué l'Horcrux et pas Harry. Mais après, ça revient toujours au même. Il ne serait pas mort, mais il se serait réveillé, et puis... qu'est-ce qu'il aurait fait ? Enfin, il se serait refait une seconde fois.
J'ai tendance toujours à manger du côté de Dumbledore, et ce qu'a l'air de suggérer Dumbledore, c'est quand même que Harry doit se sacrifier, que c'est une très bonne chose que Voldemort ait la protection de Lily dans ses veines, et que les reliques de la mort, c'est qu'un apparat, c'est une illusion et ça n'a pas de réel poids, et que être le maître de la mort, ça n'existe pas. C'est ce que semble suggérer Dumbledore, et moi, j'irai dans cette théorie perso.
Nous passons au hibou sonore d'Audrey.
Bonjour Marina et Jérémy, bonjour à l'invité et bonjour aux auditeurs. Question pour la volière. Connaissant son esprit espiègle des farceurs, est-ce que vous pensez que Fred Weasley soit devenu un fantôme après sa mort ? Moi, je pense que ça irait plutôt bien avec son personnage de vouloir continuer à faire des blagues même après, justement qu'il soit mort. Voilà, et qu'il puisse du coup rester un peu en contact avec son frère. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Merci à vous et longue vie à la fréquence.
Merci Audrey pour ton hibou. Alors on l'avait vu précédemment. Alors je ne sais plus si on avait vu dans un épisode classique du podcast ou si je l'avais vu avec Candy pour L'épisode d'Halloween.
Tu me confonds avec les autres, en fait, c'est ça.
Bah, je sais plus, mais on avait abordé le sujet, c'était peut-être pendant le live d'Halloween qui n'est pas sorti en podcast. On avait abordé le statut de fantôme chez les sorciers. Et on disait que être un fantôme chez les sorciers, c'était vraiment quelque chose de négatif. Parce que ça voulait dire que tu étais bloqué, que tu avais forcément un message à faire passer, si mes souvenirs sont bons. Par exemple, on voit bien Nikasis en tête, il n'est pas heureux d'être un fantôme. Il est morose et souhaitait que... Parce qu'il y a plusieurs théories qui disent que Fred deviendrait le nouveau fantôme de Gryffondor. Et finalement, ce n'est pas souhaitable parce qu'être à l'état de fantôme, c'est être dans une sorte d'entre-deux, en fait. Où tu ne peux pas être avec ta famille, finalement, tu les vois, mais tu peux pas vivre avec eux comme tu le souhaiterais. Tu es au milieu des sorciers, mais tu ne peux pas vivre comme eux. Et finalement, il vaut mieux aller dans la lumière. Et il faut souhaiter que Fred soit allé dans la lumière et qu'il puisse être libéré de la mort, en fait.
Ouais, je suis d'accord. Vas-y, Camille.
Je pense pareil. Je pense que, enfin moi mon avis c'est que Fred a continué après la mort. Je le vois pas rester bloqué en fantôme parce que comme t'as expliqué, rester bloqué en fantôme ça veut dire que t'as peur de la mort, ça veut dire que t'as pas envie de continuer, que t'es pas prêt à aller de l'avant. Et je pense que Fred il a quand même un état d'esprit très très libéré tout ça. Enfin je pense qu'il a il est heureux de sa vie, etc. Et que bon, il s'est battu, il est mort, mais voilà, je pense qu'il passe à autre chose et qu'il va continuer après la mort, quoi.
Nous passons au hibou sonore de Léa.
Coucou la fréquence. Alors j'avais une petite question à propos de l'handicap à Poudlard. Comment ça se passerait si un élève serait aveugle ou un serait impossible de marcher parce qu'il serait paraplégique depuis son enfance. Parce qu'on sait que quand les blessures proviennent d'un sortilège, elles sont impossibles à guérir quasiment. Donc si elles proviennent pas d'un sortilège, ça veut dire qu'on peut les guérir facilement. Donc ça voudrait dire qu'un enfant serait possible de retrouver la vue ou l'usage de ses jambes. Mais du coup, ce serait pour savoir si... Est-ce qu'ils entreprenaient ce type de mesures et qu'après, du coup, ils devraient réapprendre à marcher ou à voir, ou si ils utilisaient d'autres méthodes, comme ils seraient aidés par des professeurs, par exemple, pour se déplacer dans le château avec tous les escaliers. Voilà, bisous.
Merci Léa pour ton hibou. Alors c'est vrai que Poudlard, niveau normes PMR, c'est pas le top, quoi.
On n'y est pas.
Avec tous les escaliers, etc. Donc, on peut laisser supposer que, et heureusement qu'un élève avec un handicap peut être scolarisé à Poudlard. Et j'ose imaginer qu'avec tous les moyens magiques qu'ils ont, c'est tout à fait possible d'avoir des moyens de passer d'un étage à l'autre sans devoir se coltiner les escaliers.
Moi, je suis d'accord pour le coup. Là, la magie, elle peut quand même aider. Alors, on n'a pas d'exemple dans la saga Harry Potter, mais parce qu'on ne peut pas non plus passer tout en revue. Mais oui, je pense qu'il y a des moyens.
Alors, pour le coup, s'il y a un exemple, bon, c'est pas dans les films, ni c'est dans Hogwarts Legacy. Ah. Je vais pas trop spoil, enfin, c'est pas vraiment du spoil, mais il y a un personnage qui est aveugle dans Hogwarts Legacy.
Ah oui.
Un élève. Et apparemment, il se repère avec sa baguette, il se déplace avec sa baguette, donc il arrive à se débrouiller tout seul à ce niveau-là. Et après, moi, je pense que je sais pas si moi j'en ai déduit du coup que si la personne naît avec un handicap comme être aveugle, peut-être que c'est pas, comment dire, tu peux pas être guéri parce que t'es né comme ça.
Non, ouais. Par contre,
je pense que à contrario, si tu te fais mal, etc., je pense que ça se guérit facilement. Et après, voilà, c'est toujours une histoire de recherche, finalement, en fait. Enfin, il faut trouver la bonne potion pour guérir les bons mots. Donc, rien ne dit que, peut-être qu'à l'époque d'Hogwarts Legacy, on ne pouvait pas rendre la vue. Et peut-être que 100 ans plus tard, à l'époque d'Harry Potter, c'est possible.
Bah, là-dessus, je dirais, je ne pense pas que la magie puisse soigner des handicaps lourds. En tout cas, j'espère que c'est pas le cas pour soulager la conscience des sorciers qui vivent en marge des moldus. Parce que imaginons que la magie, elle puisse, tu vois, genre un moldu tétraplégique, en fait, la magie, elle permet de retrouver l'usage de tes jambes. Bah, c'est quoi cet égoïsme de vivre retranché dans ton coin et pas venir en aide au moldu? Moi, je dirais, j'espère que la magie permet pas de guérir les handicaps, parce que sinon, c'est horrible.
Je pense qu'ils sont vraiment égoïstes à ce point-là.
Ah ouais, tu penses? Ah ouais, t'es pas tendre avec le monde de la magie, hein?
Bah, quand on réfléchit bien, je veux dire, il y a plein de trucs qu'ils pourraient faire pour aider les
mordus.
Ils le font pas. Donc, après, je sais pas si genre le cancer, tous ces trucs-là, ils ont moyen de le guérir, mais voilà, quoi. Je me dis, ouais, je pense qu'ils doivent garder ça pour eux. Et justement, je crois que Ron en parle au tout début. Il dit, bah non, les mordus, ils sont pas au courant. On a des moyens, etc. Mais on se cache parce que sinon ils passeraient leur temps à nous demander de l'aide.
Ouais, bah ça c'est Hagrid qui dit ça, mais du coup c'est de savoir où on place le curseur en fait, sur quel point on vient pas en aide au moldu. Et là on parle quand même de je sais pas, genre un cancer et tout, c'est quand même chaud, tu vois. Genre vraiment, si ça peut se réparer par la magie, pourquoi ils le font pas? Je sais pas, moi genre pour soulager ma conscience de Potterhead, je dirais que c'est pas possible.
Bah peut-être, ouais, peut-être que c'est pas possible, mais je vois mal pourquoi.
Ouais.
Peut-être qu'ils vont juste pas chercher, hein. Peut-être qu'il n'y a pas forcément de cancer chez les sorciers, et puis du coup ils cherchent pas forcément à guérir de cette maladie là, quoi.
Cette volière est terminée, on est à jour jusqu'à fin janvier à peu près. Encore un peu de patience si vous nous avez contacté à partir de cette date.
Et si vous êtes un ou une habituée de l'émission, vous savez déjà que pour candidater à la volière, il suffit de nous envoyer un message vocal d'une minute environ, soit en message privé sur nos réseaux sociaux, soit par mail à l'adresse fréquence934@gmail.com. La description est là pour vous aider avec tous les liens où vous pouvez nous retrouver.
On est sur Insta, Twitter, Facebook ou encore Discord. D'ailleurs, c'est sur ce serveur qu'on vous attend. Ça vous intéresse de discuter avec d'autres auditeurs. On a passé les barres de 1500 inscrits. Il y a du monde. Et c'est là-bas aussi que se déroulent les candidatures pour participer à une future émission, comme l'a fait Camille, par exemple.
Bon, Camille, c'était super cool de faire cet épisode avec toi. Est-ce que tu as passé un bon moment?
Oui, c'était très bien. Merci pour l'invitation.
c'est pas décevant, quoi.
Non, du tout.
Bon bah ça fait plaisir en tout cas, surtout qu'on a fait l'épisode d'avant sans auditeur, parce que voilà, des trucs d'agenda on n'avait pas pu, donc ça fait plaisir de retrouver un auditeur et Camille, bah tu reviens quand tu veux. En tout cas, si t'es intéressé, n'hésite pas à nous recontacter pour un futur chapitre. D'accord. Je sais pas s'il y a un chapitre plus tard dans la saga qui t'intéresse particulièrement, t'hésite pas. En tout cas,
j'y réfléchirai.
Pour finir, on remercie les auditeurs qui s'abonnent, qui nous laissent des étoiles sur les différentes applis d'écoute, voire même des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. On fait un coucou à Jeanne d'Arc, rien que ça, Jeanne d'Arc, fan d'Hermione et Étoile du Lynx, qui ont partagé un commentaire récemment sur Apple. Autrement, si vous nous découvrez, sachez que vous pouvez retrouver ce podcast sur la plupart des applis. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube, Podcast Addict, Google Podcasts, Amazon Music et quelques autres encore, comme ça vous arrange le plus.
On termine, tradition oblige, par citer les auditeurs et auditrices qui nous soutiennent sur Tipeee au moment de cet enregistrement. Corsetilou, Mathilde, Lowlax, Mugiwara, Julien Bédé, Yonde, l'arithmancien, Chloé, Priscilla, Camille, Lucie,
Bispac, Virginie, Pamela, Florine, Pokipims, Inni, Laure, Louison, Aurélien, Kimi Doc, Kali, Mathilde, Miss Bookin et Florine. Ça nous touche de voir cette liste s'agrandir. Un grand merci à tous. Même les plus petits galions nous aident énormément. Donc si vous le voulez et si vous le pouvez surtout, n'hésitez pas à soutenir la fréquence et aider notre projet à être accessible à tous gratuitement. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'ai lancé une chaîne Twitch récemment aussi, en complément du podcast. Et la chaîne est désormais affiliée. Ça veut dire que vous pouvez aussi nous soutenir là-bas en vous abonnant à la chaîne Twitch, soit avec quelques galions ou gratuitement avec votre abonnement Amazon Prime, ce qui peut être un bon plan. Certains ont déjà commencé à le faire, c'est incroyable. Merci à vous, bien sûr, aussi.
On a déjà hâte de vous retrouver pour le prochain chapitre où ça va jouer au Quidditch. Ouais.
Youhou !
Super. Il s'agira bien entendu de cette fameuse finale de Coupe du Monde qu'on va suivre ensemble en podcast.
D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Bye bye.